France Culture.
Et si, contrairement à ce qu'on s'imagine en général, les guerres de religion et plus largement les guerres civiles, loin de se résumer à la violence considérable qui s'y déchaîne, s'avéraient au moins autant de très grands moments de maîtrise de soi, des époques certes traversées par des hommes sanguins, mais davantage sans doute encore par des hommes au grand sang-froid. Véritables laboratoires sociaux, les guerres de religion de la seconde moitié du XVIe siècle auront ainsi paradoxalement largement contribué à l'avènement de la civilisation des mœurs. C'est la thèse de l'historien, grand lecteur de sociologie, Jérémy Foa, avec « Survivre », un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Survivre, le titre de ce livre de Jérémy Foa, c'est aussi la grande affaire des protagonistes de Trash Vortex, le nouveau roman de l'écrivain Mathieu Larnaudy qui nous rejoindra en seconde partie de cette émission qui se conclura par une rubrique actualité d'actualité à propos du bon gouvernement. C'est la publiciste Laureline Fontaine qui nous rejoindra en toute fin d'émission. Bonjour Jérémy Foa.
Bonjour.
Vous êtes historien, je le disais, maître de conférence à l'université Aix-Marseille, membre du laboratoire Télème, et vous publiez dans la collection L'Univers historique au Seuil, Survivre, une histoire des guerres de religion. Ce livre commence d'une certaine façon par une image que j'ai choisi de faire figurer sur la page de l'émission. Il s'agit d'une gravure de 1594 de Jean Leclerc. Pourquoi avoir choisi cette image ?
Je pense que cette image, elle représente finalement l'angoisse fondamentale des guerres de religion qui, selon moi, est une angoisse inhérente à toutes les guerres civiles, à savoir, on ne sait pas quelles sont les intentions du passant qui s'avance. Donc sur cette image, on voit un chevalier et on voit un homme qui s'avance vers lui et le chevalier arrête ce personnage qui s'avance vers lui. Et ça montre à mes yeux, cette image, l'angoisse qui est inhérente aux guerres de religion, à savoir est-ce que ce passant me veut du mal ou non ? Comment savoir, comment détecter sur le visage, sur les habits, sur les mains, sur les insignes de la personne qui est en face de moi, s'il m'en veut, s'il veut me faire du mal ou non ? Ou, en d'autres termes, est-ce qu'il est catholique ? Est-ce qu'il est protestant ? Puisqu'on est au cœur des guerres de religion où il y a un affrontement religieux, est-ce qu'il est ligueur ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un catholique radical ? Donc finalement, cette image... Qu'est-ce qu'elle vient dire ? On a une troisième femme qui arrive dans cette image, tout à gauche, qui porte un masque. Hein, et ça montre eh bien, tous les jeux de dissimulation hein, qui sont au cœur des guerres de religion, où on a des acteurs qui vont se faire passer pour protestants quand ils sont catholiques, pour catholiques quand ils sont protestants, pour ligueurs quand ils sont royalistes. Et ça va susciter une gigantesque angoisse, à savoir comment détecter, comment repérer sur le visage des gens, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'adresser à nous, leurs intentions et puis surtout leurs appartenances à la fois politiques et religieuses. Cette image, elle montre bien finalement hein, ce condensé d'angoisse qui est l'angoisse névrotique des guerres de religion.
L'ouvrage s'ouvre donc avec cette image, mais s'ouvre aussi avec un livre célèbre, un livre classique, un livre qu'on étudie à l'école, les essais de Montaigne, un livre que vous qualifiez de manuel de survie en guerre de religion.
Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais Montaigne, il a vraiment rédigé ses essais pendant une vingtaine d'années au cœur des guerres de religion. La première édition des essais, c'est 1580, hein, et on est au cœur des guerres de religion. Il commence à les écrire une décennie plus tôt. Et ce livre s'ouvre par une confession de Montaigne, dans un de ses essais où Montaigne dit « Souvent, je me suis couché en imaginant qu'on m'égorgerait cette nuit-là. » Et je me suis dit là, dans ce mauvais rêve, dans ce cauchemar de Montaigne, il y a quelque chose de central sur ce que c'est qu'une guerre civile, à savoir la peur d'être trahi par ses proches. C'est-à-dire ce qui va distinguer une guerre civile d'une guerre interétatique, c'est que la violence va surgir au plus intime, au plus proche, dans la maison, dans le lit, et non pas sur un champ de bataille. Hein, ce qui va finalement susciter une gigantesque angoisse aussi, c'est que la violence, elle arrive n'importe où et n'importe quand. par opposition à une guerre qu'on va dire soit juste, même je ne suis pas sûr qu'il y ait des guerres justes, mais en tout cas au Moyen-Âge, il y a une définition de la guerre juste qui dit qu'on fait la guerre à tel endroit, à tel moment. Une guerre civile, ça peut surgir dans une chambre à coucher, à minuit, à 3 heures du matin. Et ça, ça va créer une angoisse vraiment très profonde. Ici, Montaigne est le témoin de ça, à savoir est-ce que non seulement mon domestique peut m'égorger, mais est-ce que mon fils peut être protestant et décider de me trahir? Est-ce que ma femme peut être catholique et décider de me trahir? Et cette violence venue du proche, eh bien, c'est la définition des guerres civiles.
Une gravure, un livre, mais la plupart des objets qui vous intéressent, que vous travaillez comme historien dans ce livre « Survivre », Jérémy Foa, ce sont des faits divers, en fait.
Oui, je me suis dit que il fallait aussi quitter les grandes histoires, il fallait sortir du Louvre, il fallait sortir de l'histoire diplomatique qui parle des intrigues des grands pour vraiment plonger au ras du sol dans des petites histoires qui arrivent aux Français et aux Françaises des guerres de religion. Et donc effectivement, ça ressemble à des faits divers. S'il y avait eu des journaux quotidiens à l'époque, ça aurait été des manchettes de faits divers. Quelqu'un qui est trouvé mort au coin d'une rue, qui est agressé au coin d'une rue, qui n'a pas su trouver la bonne réponse face à son interlocuteur. Eh bien, tout ceci, toute cette matière qui vient au ras du sol, c'est ça qui a nourri mon livre. C'est une façon, voilà, de quitter des histoires qu'on a beaucoup étudiées, dont on a beaucoup parlé, à savoir, voilà, l'histoire de Catherine de Médicis, hein, la reine mère, les histoires du roi Charles IX, ou de Henri III ou d'Henri IV, qui bien sûr sont tout à fait légitimes et intéressantes. Mais moi, ma matière, elle est vraiment en bas, dans les tréfonds de la société.
Alors ça, c'est votre matière d'historien. Vous êtes allé la chercher dans les archives ou dans les travaux d'autres historiens. Vous la mobilisez, vous racontez ces histoires, ces faits divers. Mais en fait, vous les observez avec un œil, qui est certes un œil d'historien, mais aussi avec un œil de sciences sociales plus large, avec un œil de sociologue. Pour revenir à cette gravure que vous décriviez tout à l'heure, au fond, ce qu'elle représente, c'est ce que Goffman appelle une interaction de face à face. Je cite Goffman volontairement parce que vous le mobilisez beaucoup, ça fait partie des auteurs qui vous aident à réfléchir. Et au fond, ces faits divers que vous collectionnez pour mieux comprendre cette situation très singulière qui est celle d'une guerre civile, vous les observez avec beaucoup de concepts des sciences sociales et des sociologues. Je citais Goffman, mais on pourrait citer aussi Georg Simmel ou l'un de ses étudiants, Robert Park, que vous mobilisez également, Jérémy Foa.
Oui, c'est vrai que les outils des sciences sociales, notamment les outils de la sociologie, et parmi ces outils, les outils de l'école de Chicago, entre autres Goffman, effectivement, m'ont été particulièrement utiles pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un comportement normal dans une grande ville du XXe siècle. C'est ce qu'a observé Goffman. Comment est-ce qu'on se comporte normalement en période de paix sur un trottoir quand on est un passant et qu'on croise un autre passant? C'est ça qui intéresse Goffman. Hein. On croise un passant dans une rue d'une ville en paix du XXe siècle. On lève les yeux pour montrer à ce passant qu'on l'a repéré, qu'on est inoffensif, puis on baisse les yeux. Ça, c'est une interaction normale. Si on fixe le passant, c'est une interaction anormale. Une interaction normale dans une ville en paix, c'est on regarde puis on baisse les yeux très vite. C'est ce que décrit Goffman. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'impossibilité de cette figure. Justement, c'est l'anti-école de Chicago qui se joue pendant les guerres de religion, à savoir qu'on ne peut pas précisément laisser passer le passant. C'est la disparition de la figure du passant. Le passant, ça n'existe pas tout simplement parce que on est obligé d'aller plus loin que le simple échange de regard quand on est un Français ou une Française en 1570 dans les rues de Paris. Il faut savoir qui s'avance. Et pour savoir qui s'avance, il faut aller au-delà de l'œil, il faut y mettre la main, hein. Il faut toucher, il faut fouiller les gens, il faut les palper, il faut les interroger, il faut les scruter, savoir quelles sont leurs intentions. Et tout ça, par rapport à ce que Goffman a décrit comme une interaction normale, une interaction de paix, eh bien, voilà, ça m'a permis de construire, de partir d'un modèle qui est celui de la ville de Chicago pour montrer que ce n'est absolument pas comme ça qu'on se comporte dans une ville en guerre civile dans la France du XVIe siècle.
En fait, en guerre civile, ça vaut pour ces guerres de religion du XVIe siècle, ça vaut probablement pour d'autres guerres civiles. On aura peut-être l'occasion d'aborder cette question, Jérémy Foa. les acteurs sociaux deviennent à leur manière des sociologues. Ils sont beaucoup plus réflexifs qu'on l'est d'ordinaire. Ils interrogent ce que les sociologues appellent en général le « taken for granted », ce qui va de soi, normalement, qui n'est pas interrogé. Non seulement ils essayent de savoir à qui ils ont affaire, ils essayent de savoir d'où parlent les gens, mais ils essayent de saisir l'interaction qu'ils ont avec celui qui croise sur la route, en fait, sur leur chemin.
Oui, là, effectivement, c'est ça qui m'a intéressé dans ces guerres civiles. C'est ce qu'on peut appeler la hausse de la réflexivité. C'est-à-dire que en période de paix, la plupart des interactions, hein, vous l'avez dit, vont de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à son boulanger pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il prend la baguette de telle manière, quel est le poids et le prix du pain. Une grande partie des interactions qui, en contexte pacifique, sont les nôtres, vont de soi et ne sont pas
interrogées. On les interroge pas en permanence.
On les interroge pas en permanence, sinon on deviendrait fou. C'est-à-dire que voilà, c'est impossible. Si on est dans un mode de suspicion permanent, médicalement, ça s'appelle de la paranoïa. Et bien précisément, c'est ce qui se passe dans les sociétés en guerre civile, c'est que pour survivre, il faut devenir paranoïaque. Il faut devenir un enquêteur et il faut tout remettre en question, tout suspecter. Effectivement, se faire soit sociologue, en tout cas bon observateur, traquer les détails. Je donne un exemple dans mon livre, mais il y en a 100. Des soldats, des officiers, donc des gens plutôt riches, qui se font passer pour trahir une ville, qui se font passer pour des paysans. Ils veulent rentrer dans Senlis. Dans la décennie 1590, ils veulent surprendre Senlis, ils se font passer pour des paysans et donc on les croit inoffensifs. Or, en réalité, ils cachent des armes. Ils arrivent, ils font semblant de vendre leurs marchandises sur le marché à Senlis, mais on les détecte parce qu'ils ont les mains trop blanches. Un paysan, au XVIe siècle, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains et qui a les mains sales. Eh bien, ces officiers, qui sont membres des classes plutôt supérieures, ils ont les mains trop blanches. Survivre, conjurer ses mauvais coups, c'est apprendre à gratter, à voir, à palper ses ongles noirs. Donc c'est vraiment rentrer et aller au-delà de la simple déclaration « je suis un paysan ». C'est ce qu'on aurait accepté en situation normale. « Je suis un paysan, je viens vendre mes fèves, situation normale, on pose pas de questions, on regarde pas les mains ». Situation anormale, voilà, il faut regarder les ongles.
Vous disiez en situation normale, si on se pose ces questions-là, ça s'appelle la paranoïa. Précisément, ça me fait penser à un livre important de Luc Boltanski qui s'appelle « Énigmes et complots », dans lequel il parle de la question des enquêtes, des énigmes, la naissance du roman policier, de la naissance de la paranoïa aussi, précisément. Et c'est pas sans lien avec ce que vous dites d'un autre concept central pour Luc Boltanski aussi, la critique. Vous dites, au fond, la critique dans ce moment-là, dans ces moments de guerre civile, c'est ça, l'arme, la vraie arme, la plus tranchante.
Oui, alors effectivement, Boltanski, de manière générale, tout le travail de Boltanski, mais en particulier le livre que vous citez, ça a énormément nourri mon enquête, parce que précisément, c'est une enquête sur l'explosion des enquêtes. Les sociétés en guerre civile, la France des guerres de religion, sont des sociétés dans lesquelles on est obligé de faire des enquêtes sur tout. Non seulement sur des gens qui objectivement ont l'air dangereux ou criminels, mais même sur des situations ou des personnes qui normalement seraient anodines et non questionnées. Donc tout le monde doit se faire enquêteur et bien sûr tout le monde doit se faire critique. Donc on a là à mes yeux un moment qui est important dans la hausse de la capacité à remettre en question le monde tel qu'il va. Alors, c'est difficile de dire quelles sont les conséquences philosophiques, sociales de ça, mais en tout cas, là, on a 40 années dans la France du second XVIe siècle de hausse considérable, à la fois de la réflexivité et du regard ou de l'esprit critique sur le monde tel qu'on prétend qu'il est.
Une forme de dissociation entre le monde et la réalité, en fait.
Tout à fait.
Alors, Jérémy Foy, vous structurez votre enquête autour de différents objets, en quelque sorte. Le langage, l'espace, ce sont chaque fois des manières de saisir ce régime particulier, ce fait de considérer, au fond, les guerres de religion comme une sorte de laboratoire pour l'historien sociologue que vous êtes. Parce que, notamment, du fait de ces enquêtes, il y a ce que vous appelez une prolifération des signes dans cette époque. Il s'agit de, non seulement de deviner ce qu'est l'autre, mais presque par avance et par anticipation, de montrer ce qu'on est soi.
Oui, alors j'ai construit effectivement le livre autour de la question de ces signes à guetter dans le monde pour s'en sortir. Alors il y a quatre parties dans le livre qui finalement vont structurer les quatre doutes qui saisissent les personnes dans les guerres de religion. Quatre doutes, pour le dire très vite. Premier doute, on vient d'en parler, c'est les doutes sur les personnes. Donc, quels sont les signes que je vais traquer sur un visage, sur un vêtement?
Ça, c'est qui vive.
C'est qui vive. C'est la première partie. Donc, il faut à la fois apprendre à exhiber les bons signes au bon moment ou à dissimuler les mauvais signes au bon moment. Donc, ça, c'est une habitude, une façon d'être qu'on doit apprendre très rapidement, à la fois si on veut passer inaperçu ou si l'on veut détecter un ennemi. La deuxième partie du livre, elle s'intéresse aux questions d'espace. Doute sur l'espace. En période de paix, on questionne assez peu la qualité des espaces qu'on traverse. On regarde si une voiture arrive à gauche, et puis c'est tout. Ça suffit globalement à nous mener d'un point A à un point B. Dans une situation de guerre civile, il faut traquer beaucoup plus de signes. Est-ce que cet espace est protestant, catholique, ennemi, ligueur, royaliste? Et tout ça, ça s'apprend. On apprend non seulement à détecter une croix, on apprend aussi à dissimuler ses appartenances religieuses quand on est une minorité.
Des croix qui peuvent être posées sur les portes.
Voilà, les croix qui peuvent être posées sur les portes ou inversement, des croix qui peuvent être posées sur une porte pour montrer qu'on est un bon catholique ou inversement, des croix qui peuvent être dessinées par des catholiques sur des maisons protestantes pour inviter les tueurs à venir sur telle ou telle maison. Donc il y a des phénomènes de marquage qui sont des signes. Il faut apprendre à marquer l'espace pour qu'on se repère. Et inversement, quand on est menacé, quand on a une minorité, quand on veut fuir, il faut apprendre à démarquer l'espace, à devenir discret, invisible, à ne surtout pas laisser une croix traîner sur la porte de sa maison. On sait que ça aurait des conséquences funestes. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, ce sont les doutes relatifs aux choses, aux objets. Dans le monde tel qu'il est autour de nous, je vois des ordinateurs, je vois une gourde, je vois un casque. Tout ceci demeure inquestionné car je ne me sens pas menacé par le monde qui m'entoure. Si on était dans une situation en guerre civile, tous ces objets apparemment anodins, non létaux, devraient être questionnés car cette gourde qui est creuse, par exemple, pourrait dissimuler du poison ou une bombe. Et donc, l'espace des guerres civiles va être mité par des objets possiblement double ou duplice ou creux qui vont permettre de faufiler une bombe et être menaçant. Ça aussi, on va le remettre en question. Puis, dernière partie, je vais vite, mais la dernière partie, ce sont les doutes qui sont relatives au langage. Puisque une des caractéristiques étonnantes, et Montaigne en parle beaucoup de ces guerres, c'est que l'ennemi parle la même langue que soi, comprend la langue française. À la différence,
il peut même avoir le même accent, en fait.
Ou même accent, ça peut être entre Parisiens, entre Chalonnais, entre Marseillais. Donc c'est très difficile de le confondre par le langage. À la différence d'une guerre interétatique, où il va être, ou une guerre internationale, où il va être plus facile de détecter un ennemi par son accent. Il y a plein de films sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale, où on voit que on détecte un ennemi par l'accent. Même quelqu'un qui parle très bien français a forcément un accent traînant quelque part. Ici, dans ces guerres-là, les gens parlent la même langue. Et donc, le langage va entrer dans la guerre civile comme quelque chose dont on se met à douter. C'est Thucydide qui dit ça. Dans la guerre civile, on changea jusqu'au sens usuel des mots. C'est ça qui est intéressant, c'est dans la mesure où c'est une guerre qui oppose des gens qui parlent la même langue, il va falloir se servir des mots de la langue maternelle, mais les coder pour que l'autre ne les comprenne pas. Par exemple, les catholiques, durant le massacre de la Saint-Barthélemy, au lieu de dire « massacrer », ce qui aurait aussitôt alarmé les protestants, vont dire « accommoder ».« Accommode-moi celui-là ». Et dans ce mot « accommoder », qui est une sorte d'euphémisme, ça fait changer la langue. Ça fait changer le sens des mots. Tout soudain, ce mot « accommoder », qui jusqu'à présent était un mot de la cuisine, « accommoder les sauces », se charge d'un sens potentiellement violent. Et on voit comment la langue, dans le conflit, bouge. Toutes ces choses, ces micro-détails, il faut apprendre à les lire pour survivre dans un contexte de guerre civile.
Si on reste sur la question du langage, d'un développement passionnant aussi sur les figures de style qui prévalent dans des moments comme ceux-là, et notamment la paradiastole,
Oui, alors, la paradiastole, en réalité, on se rend compte qu'il y en a, que le monde est nourri de paradiastole. Ce que les uns appellent courage, les autres l'appellent folie. Voilà, ça c'est une paradiastole. Eh bien, quand on s'intéresse à cette figure de style, quand on commence à creuser, on se rend compte que les guerres civiles en sont pleines. C'est-à-dire que on va avoir ici une même réalité, un fait divers précisément, c'est le mot que vous avez employé, un fait divers. Les uns vont qualifier ce fait divers de courageux. C'était formidable ce qu'il a fait. Les autres, ce même fait divers, cette même réalité, va être qualifié par un autre mot. Et donc, deux mots pour qualifier une même réalité, ça aussi, ça fait tanguer le langage. Celui qui avait la hantise de la paradiastole, c'est Hobbes. Ça a été montré par Quentin Skinner. Hobbes, qui est aussi un témoin des guerres civiles. Alors, celles-ci, ce sont les guerres civiles anglaises du XVIIe siècle. Hobbes montre que cet usage de la paradiastole, ça met en péril la société parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. On n'est plus capable de se mettre d'accord sur la qualification d'un même événement. Si les uns disent que tel événement est formidable ou est courageux et les autres utilisent un mot exactement contraire pour le qualifier, eh bien, ça met en péril le langage, et c'est-à-dire notre capacité à faire communauté.
À faire en sorte que, encore une fois, le monde et la réalité coïncident, Jérémy Foa. Alors, la paradiastole ne vient pas toute seule, elle vient avec son contraire. La paradiastole, vous dites, c'est deux mots pour une chose, mais il y a l'antanaclase qui, en contraire, est un mot pour deux choses, et qui est aussi très fréquente dans cette période.
Oui, alors effectivement, ça paraît un peu des mots... des mots barbares, mais voilà.
Non, mais on sait tout ce que c'est, en fait, dans le langage.
Oui, c'est des choses qu'on observe à la fois dans la vie quotidienne, mais qu'on observe de manière particulièrement fréquente, autant des guerres de religion. Utiliser un même mot pour désigner deux réalités, et ici encore, ça va fragiliser le langage.
Ce qui vous fait dites, que... par exemple, la religion n'est plus la vraie religion.
Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait fréquent. La religion n'est plus la vraie religion, ou alors l'utilisation très fréquemment dans la langue des troubles de prétendus. Les protestants sont des prétendus réformés. Et vous voyez que soudain, le mot réformé, qui était un mot commun aux Français, eh bien, vacille. Parce que si les uns disent réformé, les autres disent prétendu réformé, on ne sait plus vraiment ce qu'est réformé.
C'est le soi-disant ou le so-called,
voilà,
en anglais.
Soi-disant, exactement. Tous ces processus, ce sont des processus d'autonymie, c'est-à-dire que la façon dont on utilise la langue, les mots, pour parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne parle plus de la réalité, je parle de la langue elle-même. Ils utilisent le mot réformé, mais c'est prétendu réformé. Ils ont des soi-disant ministres ou des soi-disant temples. Eh bien, tout soudain, voilà, les uns disent temple, et en réalité, c'est pas vraiment un temple. C'est une secte, c'est une hérésie. Voilà. On voit ici comment le langage sort complètement abîmé, complètement tordu des guerres de religion. Et c'est des choses qu'on a observées dans de très nombreuses guerres civiles. À l'issue d'une guerre civile qui a affronté des locuteurs d'une même langue, eh bien, le langage sort vraiment essoré, épuisé. D'où la nécessité, à l'issue de ces conflits intracommunautaires, du dictionnaire, par exemple. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire? Et on sait que le XVIIe siècle, ça avait le grand siècle à la fois de l'académie, mais des dictionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire? C'est dire que tel mot veut dire telle chose. Et qu'on peut pas dire n'importe quoi, que un sou ça veut dire ça, que une église ça veut dire ça, et qu'on peut pas utiliser ce mot pour dire absolument tout et son contraire. Bah, un dictionnaire, c'est ce que Boltanski appelle une institution, ça sert à dire que ce qui est, et que ça a du sens, et qu'un sou est un sou, un chou est un chou, et qu'on ne peut pas jouer avec le langage au risque de mettre en péril la communauté.
Pour prendre d'autres exemples de brouillage, sortons de la question de la langue, du langage, pour revenir à la première question que vous interrogez, qui est celle de l'espace, ou plutôt la deuxième, après celle de la personne. La question de l'espace, où là encore un brouillage se fait jour entre le public et le privé, le public et le domestique, par exemple. C'est un moment dans lequel on ne sait plus où on est, en fait.
Oui, c'est effectivement une des caractéristiques de ces conflits, c'est que la frontière qui était relativement claire entre le dehors et le dedans, l'espace public et l'espace privé se brouille. Et ce qui choque les contemporains, ce dont ils témoignent à longueur de chroniques, c'est la violation du lit. Par exemple, le lit n'est plus le refuge sacré de l'intime, ce moment où l'on peut s'endormir en sécurité. Hein. J'ai commencé par Montaigne qui confesse ses cauchemars. Si Montaigne confesse ses cauchemars, c'est que le lit, c'est-à-dire ce que nous considérons, mais c'est déjà le cas au XVIe siècle, comme voilà l'espace intime, l'espace dans lequel on est protégé, eh bien le lit n'est plus un refuge. Donc on a un brouillage permanent entre le public et le privé, la disparition de ce que dans une guerre normale on appelle le front d'un côté, l'arrière de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on peut être tué dans une ville, dans son lit, dans une maison, en train de faire ses courses, et plus seulement, comme c'était le cas dans ce qu'on qualifiait de guerre juste, sur un champ de bataille. Vous voyez ici, au passage, les échos qui peuvent exister entre ces situations de brouillage du front et de l'arrière en guerre civile et les situations de terrorisme. Hein, les sociétés qui se confrontent à l'épreuve terroriste, telle que on a pu la vivre en France, par exemple, avec le Bataclan ou d'autres événements, c'est aussi un brouillage de la zone de guerre et de la zone de vie. C'est-à-dire qu'on peut mourir sur une terrasse, on peut mourir dans un café, on peut mourir en pratiquant une activité pacifique en dehors de tout conflit et de tout champ de bataille.
Vous le disiez, Jérémy Foyle, le matériau historique dont vous vous servez principalement dans ce livre relève de ce qu'on peut qualifier de faits divers. Mais ces faits divers, à l'époque même, ils sont racontés. On est en plein développement de l'imprimerie, vraiment contemporaine de ce moment. Ils sont racontés et du coup, ces faits divers, dites-vous, viennent à en former une sorte de répertoire d'action. C'est-à-dire que les acteurs sociaux vont puiser dans les récits qu'ils lisent de ce qui est arrivé à leurs contemporains des moyens de survivre.
Oui, je pense que c'est effectivement la façon dont j'ai essayé d'analyser la fin que les contemporains avaient de ces faits divers. Bon, alors on le sait, une des grandes nouveautés de ce siècle, c'est l'imprimerie. C'est-à-dire que tout soudain, des faits divers qui, un siècle auparavant, seraient restés isolés dans une petite ville et n'auraient jamais servi de guide 20 kilomètres alentour. Désormais, ces histoires sont racontées, sont publiées grâce à ce média qui est incroyable, qui est l'imprimerie, hein, et puis diffusées à des dizaines, des centaines d'exemplaires. Et là, effectivement, les lecteurs vont pouvoir lire dans une histoire qui se passe à Senlis ou qui se passe à Rennes ou qui se passe à Beauvais, dans l'histoire de, par exemple, j'ai parlé de ces soldats à Senlis qui étaient repérés grâce à leurs mains trop blanches, eh bien une leçon de vie.
Ils vont prendre connaissance de la souffrance à distance.
Exactement, pour reprendre un concept de Louis Boltanski.
Un autre. Et donc, c'est aussi l'époque, dites-vous, où la figure du tricheur devient le parangon de l'homme moderne.
Oui, c'est vrai que ça m'a frappé parce que c'est rarement une figure qu'on met en avant pour le XVIe siècle. Mais si on se place à l'issue de ces guerres, par exemple, au début du XVIIe siècle, un enfant qui serait né en 1560, au début de ces guerres civiles, qui serait quadragénaire en 1600, qu'est-ce qu'il a vécu? Quelle est la leçon qu'il a retirée de sa vie? Eh bien, c'est que le mensonge, ça aide. Le mensonge, c'est ça qui fait survivre. Dire la vérité, ça n'aide pas. Alors, sans doute que c'est moral, sans doute que Dieu veut qu'on dise la vérité, que le curé aussi veut qu'on dise la vérité, mais quelle est la leçon de vie? Qu'est-ce qu'ils ont appris ces enfants de 1560? Eh bien, c'est que quand on est dans une situation de tendue, eh bien, il faut mentir, il faut dissimuler, il faut enfiler un vêtement, il faut prétendre qu'on est protestant quand on est catholique, et l'inverse. Donc, quelle est la leçon de ça? Elle est double. Un, le mensonge sauve. Le mensonge, la dissimulation sauve. Ça, c'est la première leçon. Et voilà, bon, c'est une leçon qui est... Les parents sont pas d'accord, mais c'est parce qu'on apprend tous à nos enfants qu'il faut pas mentir. Mais voilà ce qu'apprennent les enfants de 1560, c'est ça qu'ils apprennent. Et la deuxième leçon, c'est que ce qu'on pense intérieurement, ce qu'on croit sincèrement, c'est invisible. C'est ça aussi la leçon qu'on retire à force de 40 années de guerre civile, c'est que personne n'est capable de lire ce qu'on croit intérieurement. Si 10 fois j'ai menti en prétendant être catholique quand j'étais protestant et l'inverse, et 10 fois c'est passé, bon, ben c'est bien la preuve que ce que j'ai dans mon cœur, ce que je crois intérieurement, eh bien ça me concerne et que j'ai un masque public, je m'en sers et c'est ça qui intéresse les gens. C'est le masque qu'on exhibe socialement, ça marche. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, de toute façon, personne ne le sait.
Mais ce qui se passe à l'intérieur de tout le monde, ce qui traverse tout le monde, c'est probablement une terrible angoisse liée au fait de vivre dans ce moment d'incertitude, d'avoir le sentiment en permanence que le sol se dérobe sous nos pieds, puisque les mots n'ont plus le même sens pour tout le monde, comme vous le disiez. D'où l'envie, quand on sort de cette période, de faire des dictionnaires, de construire, au fond, dites-vous, en conclusion, un État absolutiste, c'est-à-dire un État qui est là pour dire ce qui est de ce qui est.
Oui,
ce qu'il en est de ce qui est.
Ouais, tout à fait. C'est une des conclusions du livre hein, qui est construite à partir aussi des concepts de Luc Boltanski, c'est que l'homme qui sort, l'homme et la femme qui sortent de ces 40 années de doute, ils sortent épuisés. Et donc, il va naître de cet épuisement un désir d'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est que c'est un organisme qui nous dispense du doute, qui nous dit un billet de 20 euros, ça vaut 20 euros. Un parlement, c'est un parlement, et un professeur d'université, c'est un professeur d'université. Et il y a des titres d'État qui sont là pour nous dispenser de douter. Et quand on rentre dans un avion, hein, c'est Luhmann qui dit ça, quand on rentre dans un avion, on fait confiance à l'État qui a fait passer son brevet de pilote au pilote. On questionne rarement, enfin je sais pas si vous le faites, on questionne rarement le pilote sur les diplômes. Bien, bon, qu'il y ait des États, qu'il y ait des institutions qui contrôlent les diplômes, qui contrôlent les compétences, tout ceci est un immense soulagement. Je dis ça pour montrer que ce désir d'institution, il est porté par une société qui a été harassée par ses épreuves quotidiennes. Et donc si finalement l'absolutisme, la solution absolutiste qui naît des guerres de religion au XVIIe siècle a un tel succès, eh bien elle ne naît pas seulement du grand talent des rois, elle ne tombe pas du ciel dans la tête de grands théoriciens, elle est aussi portée par tous ces désirs d'institution qui sont surgis de cet épuisement, de cet épuisement à force de douter. Qu'est-ce qu'une institution ? Bien, c'est quelque chose qui nous dispense du doute. Alors, c'est pas forcément excellent de se dispenser de douter, mais c'est reposant. Voilà, c'est reposant.
Ça fait écho à des situations qui ne sont pas des situations de guerre civile, mais qui nous sont très contemporaines. Je pense qu'on ne manquera pas de l'évoquer en troisième partie de l'émission avec Laureline Fontaine. Mais d'abord et avant ça, c'est Mathieu Larnaudy qui va nous rejoindre pour continuer à parler de la survie dans des périodes d'incertitude, abordée d'un autre point de vue à propos de son roman Trash Vortex. C'est après un extrait du nouvel album de MJ Landerman, une sorte de clin d'œil à la Neil Young, à Ozzy Osbourne, aussi étrange que cela puisse paraître, Bark at the Moon.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Survivre, c'est le titre du livre de Jérémy Fauat dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission. Survivre, c'est la question centrale que se pose aujourd'hui, en notre époque anthropocène qui perçoit le début de la fin, ou les temps de la fin, ou la fin des temps. Mathieu Larnaudy, les personnages de votre roman Trash Vortex sont traversés par cette question, qui est une question commune aujourd'hui. Ce qui est moins commun, peut-être, c'est la personnalité de ces personnages.
Bonjour. Oui, ça m'intéressait beaucoup ce que disait Jérémy Fauat tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'angoisse névrotique centrale structurante d'une société. Le roman prend le parti de se dire que cette angoisse de la survie, cette angoisse d'être en train de vivre un stade terminal de l'histoire, d'être en train de vivre des temps de la fin, est au fond non seulement structurante pour la société, mais aussi pour les imaginaires et pour les croyances. Dans le roman, j'ai pris le parti d'aborder cette question qui, je crois, est relativement partagée par tous. Enfin, je sais pas pour vous si ça vous arrive de la partager à vos heures, mais moi je me sens parfois un petit peu enclin à ce type d'angoisse là mais là je les aborde par frange bien particulière de la population qu'on pourrait qualifier de dominantes, c'est les maîtres et possesseurs, les ultra riches, les tenants du pouvoir de ce monde. Qu'est-ce que eux font de cette angoisse?
Alors on sait qu'il y en a certains qui imaginent, et Bruno Latour les avait envisagés, qui imaginent de construire des fusées pour aller habiter sur des planètes. Ils engageaient à atterrir cela. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres fantasmes, mais qui prennent leur source au même endroit, en quelque sorte, Mathieu Larnaudy.
Oui, mais il y a ceux d'ailleurs qui veulent s'extraire qui veulent quitter la Terre, et puis il y a ceux qui veulent s'enfoncer dans la Terre. On connaît tous ces gens qui se font construire des bunkers, des grandes résidences, des grandes villas souterraines. Et je repense au lit de Montaigne de tout à l'heure. C'est aussi une des questions, finalement, que j'aborde par la fiction dans le livre. C'est la domestication de cette angoisse. C'est comment elle passe dans un cadre intime, dans un cadre familial. Le livre étant aussi une histoire de famille.
Et de guerre civile intrafamiliale, on pourrait presque le dire comme
ça.
Oui,
c'est quasiment ça. Oui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer entre les trois personnages principaux du livre. Une espèce de triangulation d'une famille, d'un empire industriel, entre le grand-père, le fondateur, la mère, l'héritière, et puis le fils qui, lui, sera déshérité parce que sa mère refuse de lui léguer à son tour son héritage. Et effectivement, c'est une forme de traversée de cette angoisse à travers ces trois figures et ces trois générations.
Alors, comment est née chez vous l'envie d'en faire? Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un roman assez volumineux, près de 450 pages. Un roman qui prend son temps aussi. Je veux dire par là, le rythme même des phrases s'installe dans une certaine durée. Et il y a là un contraste que je trouve esthétiquement très intéressant entre ce sentiment d'urgence et le fait de s'installer dans les scènes que vous prenez, Mathieu Larnaudy.
Oui, je crois que c'était une des idées de l'écriture et de la conception formelle du livre. Non seulement de prendre son temps, mais de contrebalancer peut-être aussi l'idée d'urgence historique qui est induite par cette impression de vivre les temps de la fin. Les personnages du livre, en tout cas ce personnage de femme multimilliardaire que j'évoquais à l'instant, celle qui refuse de léguer sa fortune, c'est quelqu'un qui pense que l'histoire est en train de finir, qui est obsédé par des visions eschatologiques.
Qui pensait aussi qu'elle ne mourrait jamais.
Qui pensait dans sa jeunesse qu'elle ne mourrait jamais, et qui voyant venir non seulement sa fin propre, mais celle de l'humanité, donc une finitude non seulement personnelle, mais également collective, est un petit peu prise au dépourvu.
Tout en feuilletant des livres de Roman Opalka, c'est-à-dire des photos d'un artiste qui se prend quotidiennement en photo pour montrer la trace du...
Voilà, des gens qui travaillent sur l'épaisseur du temps, justement. Et elle tend à décréter finalement que l'histoire va vers sa fin, que le monde court à sa perte, mais c'est-à-dire aussi qu'elle dénie la possibilité d'un temps historique qui lui succède et qui lui survive. On reviendra peut-être sur le mot de survie. Et face à elle, le fils, celui qui est spolié de son héritage, eh bien, il incarne finalement ce qui va précisément survivre, c'est-à-dire l'histoire qui, elle, va continuer. Et le livre est construit un peu sur ce contrebalancement entre, qui je pense d'ailleurs... figure des positions mentales et des options philosophiques qui sont présentes dans notre culture récente, ceux qui pensent que on peut décréter la fin de l'histoire, et puis ceux qui pensent que non, ça ne se décrète pas et que de toute façon elle finira, qu'elle se transformera et qu'elle continuera sous d'autres formes.
Certains, Jérémy Fauvel, imaginent d'ailleurs que ce moment dans lequel nous sommes et dans lequel nous prenons conscience que nous vivons, si ce n'est la fin des temps, du moins les temps de la fin, pour reprendre l'expression de Pierre-Henri Castel, en fait, sont propices, ces moments, à l'irruption de guerres civiles.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le XVIe siècle est traversé par cette angoisse fondamentale, à savoir que les hommes se persuadent, pour une raison ou pour une autre, que la fin du temps, c'est-à-dire la fin des temps, c'est-à-dire l'apocalypse, est très proche. Et donc, ce qui va susciter l'angoisse, c'est l'urgence. C'est que on sait désormais que la fin des temps est proche, elle est là, les signes de l'apocalypse sont là, et donc c'est que faire ? Parce que une des grandes questions au XVIe siècle, c'est quand même le salut, pour le coup, être sauvé, c'est-à-dire aller au paradis. Et les gestes à faire pour être sauvé, les bons gestes à faire pour être sauvé, c'est ça qui suscite une énorme angoisse eschatologique.
Il y a probablement d'ailleurs une autre conception du salut, une conception contemporaine, évidemment profane, même si moi d'ailleurs je l'ai imaginé à travers ce personnage, en référence quand même à certaines sectes messianiques un peu exaltées, soit issues de la tradition de la mystique juive qui pensait par leurs actes hâter la venue du Messie, soit dans sa version ultérieure chrétienne, qui pensait que leurs actes, leurs prières attraient le retour du Messie et donc le jugement dernier. En fait, elle est un peu dans ce genre de position. Alors, elle n'est pas pétrie, quoique d'ailleurs, je crois que dans le personnage, il y a... De toute façon, elle parle en utilisant la langue messianique. Les visions eschatologiques dont elle gratifie ses visiteurs sont de cet ordre-là. Mais enfin, elle en a une version quand même profane, laïque. Elle est l'héritière, en fait, de cette espèce de tradition apocalyptique. Je pensais assez souvent, en écrivant le livre, à cette phrase de Benjamin, qui est une phrase de Michelet citée par Benjamin, « Chaque époque rêve la suivante ». Vous connaissez sans doute cette phrase, une très 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 belle phrase, et qui donne à rêver aussi. Mais c'est tout aussi vrai que chaque époque rêve qu'il n'y en aura pas de suivante. Chaque époque se vit justement comme une époque finale et comme temps de la fin. Jérémy vient de le dire à propos du XVIe siècle. En réalité, à travers l'histoire, c'est quasiment déclinable pour toutes les périodes historiques. Et si on regarde les périodes récentes, alors on a pour le coup plusieurs définitions possibles et sensibles de la fin des temps qui se sont succédées, ne serait-ce que sur 50 ou 70 ans. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, cette vision apocalyptique, elle se noue immédiatement à la question de la catastrophe écologico-climatique qui vient et qui est peut-être déjà là. En tout cas, c'est le parti pris de mon personnage qui pense non seulement que c'est déjà là, mais que c'est déjà trop tard. Et c'est aussi pour ça qu'elle ne veut pas léguer sa fortune, c'est qu'elle pense que de toute façon, ça ne servira strictement à rien. Au fond, vous savez, c'est un peu une sorte de pari dostoïevsien. C'est que si Dieu est mort, alors tout est permis. Elle se dit, si de toute façon il n'y a pas d'humanité future, alors nous n'avons aucune responsabilité à l'égard de l'humanité et surtout pas celle de lui transmettre quoi que ce soit.
Ce qui est une manière de trancher par la certitude, au fond, cette situation d'incertitude qui n'est pas la même que celle des guerres civiles. Mais Je me demandais dans quelle mesure la question de la langue en période d'incertitude vous avait intéressé aussi pour ce projet, parce que je sais par ailleurs que dans des romans précédents, vous avez beaucoup travaillé cette question de la langue politique dont parlait juste avant Jérémy Foa, Mathieu Larnaudy.
Oui, je la travaille encore d'ailleurs dans ce livre-là, la langue politique, la langue du pouvoir. Vous parliez de tranchée, elle sert à ça. Elle sert justement à essayer de définir un ensemble de positions qui soient un petit peu moins instables que ce que les angoisses mouvantes pourraient impliquer. Au fond, la langue messianique dont je parlais, qui est celle de ce personnage, en fait partie, mais les différentes déclinaisons de la langue politique en sont aussi. Et j'allais même dire que il y a aussi tout un langage qui est précisément celui de ce qu'on appelle les survivalistes, puisqu'on parlait de la question de survivre, puisque tout à l'heure, Jérémy parlait des ongles noirs et des mains blanches. C'est ça qui est assez fascinant quand on décrit ces milliardaires qui se font construire des bunkers et qui jouent à la guerre dans leur jardin pour se préparer à la catastrophe qui arrive. Eh bien, ils sont dans le même type de dissimulation ou d'apprentissage de formes de dissimulation. Eux aussi, ils se mettent de la terre sur les mains, sur leurs mains blanches,
dans une certaine mesure. Dans le camouflage social.
Exactement, ils sont dans une forme de camouflage social et politique, et aussi dans l'apprentissage de certains gestes, de certains codes, de la manipulation de certaines armes, qui leur permettra, en principe, de survivre.
Jérémy Foa.
Oui, ce qui est intéressant précisément dans ces situations d'incertitude, c'est que on doit agir, on doit apprendre très rapidement à exécuter des gestes auxquels on n'avait pas été préparé. Hein, ici, c'est riches qui doivent tout soudain apprendre à faire des gestes qu'ils ne savaient pas faire, voilà, se camoufler, s'enduire de terre, ou même voilà, apprendre à faire du feu ou à faire à manger, ou toute une série de techniques. Mais ce qui est intéressant dans ces situations voilà, d'incertitude, c'est que on doit s'extraire de son habitus, s'extraire de tout ce que la vie et la société nous avaient enseigné pour faire des nouvelles choses. Et ça encore, eh bien, ça va susciter beaucoup d'angoisse parce que peu avaient été préparés à exécuter ces gestes-là.
Survivre dans l'incertitude, voilà, donc survivre tout court, c'est le titre du livre de Jérémy Foa, une histoire des guerres de religion qui paraît aux éditions du Seuil, et Trash Vortex, c'est le titre du roman de Mathieu Larnaudy qui paraît aux éditions Actes Sud. Incertitude, c'est encore le mot qui pourrait caractériser la situation politique et institutionnelle que nous traversons depuis 2 mois maintenant. Ça fait bien longtemps que nous n'avions pas été dans ce type d'incertitude, objectivement parlant, quelle que soit l'analyse ou l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Mais j'imagine, Laureline Fontaine, bonsoir, que ce n'est pas ce qui est à l'origine du colloque que vous co-organisez début octobre, penser le bon gouvernement au 21e siècle. Parce qu'en général, les colloques, ça se prévoit un peu plus en amont que le début juillet, en l'occurrence.
Oui, bonsoir Sylvain Bourmeau. Vous avez raison, et en même temps, ça n'est pas si éloigné, parce que l'origine directe de ce colloque, c'est une phrase qui était un petit peu passée inaperçue du président de la République prononcée lors du 65e anniversaire de la Constitution de 1958.
L'an dernier, donc.
L'an dernier, voilà, où il dit que la Constitution de 1958 clôt la quête du bon gouvernement, referme la quête du bon gouvernement. Et en entendant cette phrase, je me suis dit que, indépendamment peut-être du décalage qu'il y avait avec la situation réelle, eh bien, il était peut-être nécessaire de se réinterroger sur cette ancienne quête qui date de l'Antiquité du bon gouvernement. Et c'est de là qu'est née cette idée du colloque.
Alors, je ne l'ai pas dit, vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 3 et vous avez donc conçu ce colloque avec des collègues. Autour de telles thématiques, avez-vous structuré ces 2 jours ?
Alors, j'ai conçu en effet ce colloque avec mes deux collègues Violaine Delteil et Trajan Sandou, qui sont pour la première socio-économiste à la Sorbonne Nouvelle et pour le second historien des fascismes en Europe. Et nous avons un peu réfléchi à ce qui pourrait être le plus à même d'explorer les pistes les plus intéressantes du monde contemporain sur la question du bon gouvernement. Et donc, on a plusieurs lignes donc, qui traversent le colloque. On a évidemment la ligne écologique, puisqu'on a trois interventions sur cette question, un philosophe, une ancienne architecte engagée aujourd'hui dans la vie politique, mais aussi un politiste. On a une ligne particulière sur les évolutions effectives des modes de gouvernement contemporains, et sur les modèles proposés aussi. Alors, on a une interrogation avec la philosophe Joëlle Zask sur l'idéal d'autogouvernement qui aurait disparu aujourd'hui, qui était un symbole du libéralisme. On a la question de la dépassabilité ou non du modèle de la démocratie représentative avec le juriste Dominique Rousseau. On a la question du mot d'ordre de la transparence. S'est-il réalisé ou non et comment avec la politiste Hélène Michel? On a évidemment une question extrêmement importante avec la philosophe Barbara Stiegler, puisqu'on a parlé au début de l'été d'un possible gouvernement technique. Avec elle, on abordera la question des experts, du gouvernement des experts, dont elle dit que c'est une maladie mortelle à partir d'un débat qui avait eu lieu dans la première partie du XXe siècle entre John Dewey et Walter Lippmann. On aura aussi la question de ce changement d'analyse entre l'idée de bon gouvernement et celle plus récente de bonne gouvernance, hein, qui plutôt à pignon sur rue en général. C'est Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du Monde diplomatique, qui interviendra sur cette question.
Oui, ce mot nouveau de gouvernance qui est venu remplacer celui de gouvernement, ce qui n'est pas anodin à bien des égards.
Alors c'est sûr que c'est pas du tout anodin. Puisque ça traduit simplement une réunion, en quelque sorte, alors sinon effective, au moins presque idéalisée, entre le monde économique, le monde de l'entreprise et le monde politique. Ce qui, évidemment, revient de nouveau à interroger la question de la séparation entre le politique et l'économique. À cet égard, on aura deux économistes, Nicolas Prokovas et Patrick Duhaide, qui interviendront sur la fameuse règle de Taylor, qui est un dispositif d'encadrement des politiques budgétaires et qui aurait vocation à figurer dans toutes les normes fondamentales, on va dire, des gouvernements contemporains. Et puis peut-être on peut mentionner des questions comme le gouvernement de l'opinion. C'est Anne-Marie Genène qui reviendra, qui est politiste, qui se posera la question de savoir si l'opinion peut être une boussole pour le bon gouvernement. Et puis, je ne peux pas non plus ne pas mentionner la question du rôle des sciences et des scientifiques, notamment dans le bon gouvernement, alors qui rejoint un peu la question des experts.
La question de l'épistémocratie, dirait Alexandre Viala. L'épistémocratie.
De l'épistocratie.
L'épistocratie, pardon.
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, pour le coup, ce ne sera pas un juriste qui interviendra, mais ce sera un historien des sciences, Cédric Grimoud, sur cette question-là. Et puis, après, on aura des questions peut-être un peu plus classiques, mais je pense nécessairement toujours à renouveler. Il y a la question de la possible technologie constitutionnelle qui sera abordée avec Eugénie Mériot. Il y aura la question des droits fondamentaux comme horizon ou non du bon gouvernement. Je reviendrai moi-même sur la question sur les discours en fait consistant à faire du respect du droit ou une nécessité ou au contraire un obstacle au bon gouvernement, parce que c'est un discours très très important sur ces questions-là.
Mais alors justement, je voulais profiter que vous soyez là, Laureline Fontaine, pour vous entendre sur cette question de la question du respect du droit ou pas. On est en ce moment dans une situation très intéressante, quasi expérimentale en la matière, puisque on n'a pas de juge du droit. On sait que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour savoir si le président de la République agit bien en conformité conformité avec la Constitution ou pas. Donc c'est un débat ouvert dans l'espace public, dans lequel des juristes, vos collègues, interviennent, sont pas d'accord les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et que peut le droit en la matière ?
Alors ça peut nous donner l'occasion de nous rendre compte que le droit a une force autant qu'on lui prête la force souhaitée. C'est-à-dire qu'on comprend bien, presque de manière intuitive, qu'il ne suffit pas de formuler un ordre pour que celui-ci soit effectivement réalisé. Il faut d'autres choses derrière. Parfois, il faut de la force, pour le coup, de la force matérielle. Mais plus on utilise la force, plus on se trouve dans un régime qu'on va appeler dictatorial. Mais si on n'est pas dans un régime dictatorial, pour que le droit fonctionne, il faut que presque tous soient d'accord sur le fait que l'ordre doit être respecté. Et ce qui est intéressant en ce moment à propos de ce qui se passe au niveau politique et constitutionnel, c'est qu'on se rend compte que les gouvernants ont de la Constitution une représentation telle qu'ils pensent que, en fait, ils peuvent s'en servir non pas comme une source pour eux de limitation, pour une source de limite, mais comme, au contraire, une ressource dans laquelle ils peuvent puiser pour agir, je vais dire, un petit peu à leur guise. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait voir, peut-être un peu tardivement, mais fait voir que une constitution en elle-même ne sert que si tous les acteurs, alors à la fois le corps social, mais aussi les gouvernants, donc les gouvernants et entre guillemets les gouvernés, eh bien, décident en quelque sorte, décident parce que c'est une décision, que cette constitution, pour eux, vaudra effectivement loi qui doit être respectée. Et ce qui, je trouve, est intéressant dans ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on a plein d'experts qui nous disent, je vais exagérer, mais tout est son contraire, eh bien, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que le politique se dit, ben, finalement, je peux justifier à peu près tout type de pratique, puisque je trouverai toujours un expert, d'où l'idée de Barbara Stiegler qui dit que c'est une maladie mortelle, hein, le gouvernement des experts. Donc, je peux toujours trouver un expert qui pourra effectivement me dire que je suis dans mon bon droit constitutionnel.
Merci Laureline Fontaine. Incertitude sera donc été le mot-clé de cette émission, de cette suite dans les idées. Pensez le bon gouvernement, c'est le titre au XXIe siècle, c'est le titre de votre colloque qui a lieu les 3 et 4 octobre prochains à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, rue des Irlandais à Paris. On mettra les références sur la page de l'émission, une page de l'émission où vous trouverez également les références bibliographiques des livres de Jérémy Foa et de Mathieu Larnaudy, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnay. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.